Nous allons maintenant passer à la session à la croisée des chantiers, part 2, avec Flavien Bertrand de Balanda. Alors, la communication s'appelle « Le punk français dans le texte », bilan prospectif sur une approche des contre-cultures. Avant qu'il commence, je vais vous donner quelques éléments rapidement sur sa biographie. Donc, Flavien est actuellement chercheur au Centre d'histoire du 19e siècle, Université Paris-Sorbonne. Il a enseigné à l'Université Paris 4. L'essentiel de ses recherches a porté sur Louis de Bonald, à qui il a consacré plusieurs ouvrages, une thèse, des articles. Il travaille également sur la philosophie politique du XIXe siècle. Et au niveau de Pinde, il étudie activement la scène punk depuis 25 ans. Sa participation au sein de l'équipe se concrétise par un « work in progress », je le cite, sur le texte punk français, envisagé comme un sujet de critique littéraire à part entière. Je lui laisse la parole.
Merci. Alors, donc, les bilans, puisqu'il s'agit d'un bilan, vu que les méthodes, je les ai un petit peu évoquées, je crois, lors de ma dernière communication, qui ferme une année de travail pour en ouvrir une autre, fournissent aux chercheurs un des rares moments propices à un semblant d'épanchement biographique, ou du moins on attend de lui, qui rendent un petit peu des quelques comptes quant aux motivations, par exemple, qui ont pu le pousser à rejoindre une équipe, à embrasser un projet, en l'occurrence, quelque peu atypique et fragile, pour modestement offrir ses compétences solitaires à un effort individuel collectif. Alors, comment suis-je entré adolescent dans le punk et pourquoi y suis-je resté ? En sacrifiant un petit peu au lieu commun, le raffinement brutal dans la provocation et la provocation dans le raffinement de la brutalité nous y mènent tous un peu, comme on irait en enfer ou au paradis, sans trop savoir si on l'a cherché ni mérité. Alors convenons que c'est là une affaire de théologien ou de musicologue, et en l'occurrence, nous bénéficions au moins ici de la présence de second, et non de moindre talent. Alors ça c'est quelque chose d'assez fourbe, qui consiste à promouvoir l'image d'un collègue, tout en espérant que tout le monde a bien remarqué qu'on avait assorti savamment ses chaussettes et sa cravate. Donc je suis rentré dans le punk par effectivement ce type de compilation ou d'album que tout le monde connaît. Parlons plus simplement. Le jeune et acnéique collégien qui découvrit métal urbain il y a désormais un petit peu plus d'un quart de siècle était friand à part égale des belles lettres comme de tout ce qui pouvait transgresser les codes classiques, académiques, normatifs. Alors cet aimable jeune homme, soyons fous, pensa trouver dans l'anarchisme martial de ses pochettes rouges et noires, dans ses mauvais garçons aux lunettes futuristes et aux cravates inquiétantes, dans ses refrains désarticulés, un cri expressionniste et torturé vomissant un monde basculant la tête la première, donc telle la tour Eiffel du 45 Paris-Maquis que vous voyez ici, propre à satisfaire à la seconde exigence. Alors, première surprise, qui fut loin d'ailleurs d'être mauvaise, la déconstruction était en fait consciemment ou non construite, ces éructations étaient en langage, cette violence esthétique, une esthétique tout court, donc on ne fuit jamais la littérature que pour mieux la retrouver ou être retrouvé par elle. Quelques exemples de groupes comme les cadavres qui citaient Zola, Malraux, Céline, Sioran, Huysmans, Bulldozer naviguant entre dadaïsme et situationnisme, les rats quant à eux décrivaient aussi bien que Renaud les oblouches qui se lèvent sur les tours HLM après une nuit d'angoisse ou d'imprégnation excessive de boissons fermentées. Sans compter ceux, alors là c'est tout à fait sur la droite, qui ayant délaissé la saturation des trois accords canoniques mais arboraient toujours fièrement leur Doc Martens, assumaient leur pratique d'une poésie affichée en inventant des bars tabac dans une rue des Martyrs où à ma connaissance à l'époque de la sortie du disque il n'en existait plus ou pas encore. Alors ce bref, oui c'est vrai, je confirme, ce bref détour égotique qui, rassurez-vous, se termine, pour dire simplement que les présentes recherches, comme la plupart d'entre nous, s'inscrivent dans un parcours personnel qui, loin de nuire à la distance critique, donne toujours un supplément d'âme aux tâches qu'on s'assigne, en augmentant de façon exponentielle le plaisir, qui cesse pour une fois d'être masochiste, qu'on éprouve à s'y atteler. Et c'est ici que je remercie évidemment, sincèrement et de tout mon cœur, une fois de plus, l'équipe Pinde ou Pinde. J'aime pas ces questions de prononciation, c'est comme dire Mitterrand ou Mitran, et puis chez le 19e 19e, c'est Talleyrand ou Talleyrand. Alors moi, ça m'énerve un peu. Donc je remercie l'équipe. Présentons donc les grandes lignes de ce qui fut et risque fort de demeurer notre propos. Tenter une approche du punk par le prisme du texte, et puisqu'on lui assigne les caractéristiques d'une contre-culture, prendre le contre-pied de ce contre-pied en l'étudiant dans sa paradoxale littérarité. Ça, c'est l'annonce du plan. Hein. Alors, l'angle de vue choisi pour cette première approche, qui a occupé cette année d'investigation, a privilégié des axes dimensionnels, alors grâce aux thématiques proposées par les journées d'études, comme il a été rappelé judicieusement aujourd'hui, étaient thématiques, pardonnez la tautologie. Il s'agissait donc d'inscrire la parole punk dans l'espace, d'abord, le temps, ensuite, l'être, enfin. Alors, ça correspond au plan et à mes communications, ça tombe bien, c'est donc un bilan. La banlieue, dans le premier cas, formait un cadre tout trouvé, puisqu'à la fois vécu, habité, pratiqué, approprié, avec ce tissu associatif dont on a parlé ce matin, de squats, de concerts, et chanté par les groupes français jusqu'à devenir un véritable topos. Donc si l'écriture punk est une écriture réaliste, la représentation du quotidien in situ cesse de faire sens par sa seule valeur réelle au profit des stratégies de représentation qu'elle mobilise. Celle-ci renvoie en l'occurrence à la notion de territoire à la fois homogène et hétérogène, se définissant traditionnellement en creux par rapport à la capitale, bon jusque-là c'est rien que de très nouveau, avant que cette dernière, simple lieu de convergence et d'intermodalité, alors avec ses correspondances ferroviaires, ce métro qui sont omniprésents dans les textes notamment des années 80, ne s'efface pour redonner à l'espace périphérique une identité par défaut, ou plus exactement révélant l'identité de prime abord inattendue de ce lieu d'enracinement proclamé, volontiers autosuffisant, voire ludique, provoquant un attachement charnel, voire érotique. Pourquoi la souris ? Bien évidemment parce que Taïluk, qui n'est plus là à l'heure qu'il est, qui doit être au bord de la Seine en train de vendre des livres, a chanté cette putain de zone dont on tombe amoureux et qu'on a pris comme une première défloraison féminine. La banlieue est également cette cité discount, cette zone urbaine pétrifiée, ce nulle part sans histoire, je reprends donc des expressions ou des titres d'Era, où marginalisation spatiale et marginalisation sociale se superposent désespérément dans une métaphore carcérale récurrente qui présente ces immeubles comme des espèces de tours pénitentiaires d'où toute évasion est vouée par avance à avorter. Alors, la banlieue d'où on vient est également celle où, en ces années de crise, on est condamné à rester. On circule d'une agglomération banlieusarde à l'autre, certes, mais cette circulation n'est qu'errance en boucle dans un entrelac d'impasses, de voies sans autre issue que de redéboucher sur elle-même. Donc là, c'est le clip de « Je m'emmerde » d'Era qui a été réalisé par Pascal Légitimus, dont on voit ici aucun des albums dont c'est tiré. Mais « Je m'emmerde », plus précocement dans leur discographie, ça c'est l'album Tequila, Kéops sur scène, d'Era toujours, relève de ce que je me suis permis d'appeler un tragique banlieusard, peinture sans phare d'une fatalité étouffante dont on n'échapperait que par l'usage des paradis artificiels, bière bon marché, drogue du pauvre, qui, à l'opium baudelairien, substitue plus prosaïquement le sac de colle sans gloire. Or, c'est précisément cette valeur tragique qui, comme son nom l'indique, ouvre le champ à une dimension proprement poétique. Poiesis, se dégageant d'une volonté d'écrire et non plus de simplement décrire, ce qui serait mimétique, le geste même d'écriture sublime la simple expression d'un malaise périurbain pour l'inscrire dans un beau paradoxal, celui de la jungle d'asphalte, je fais évidemment référence au groupe Asphalt Jungle qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, qui se donne à voir dans les polars noirs des années 70-80, comme sous le fusain d'un tardi, fusain qu'on a aperçu tout à l'heure avec la pochette de Pigalle qui m'est chère. Donc cette sublimation, qui laisse la part belle à l'imagination, agit davantage qu'en simple palliatif d'un réel cauchemardesque, puisqu'elle le hisse par-delà les horizons nuageux de cette esthétique du béton et de l'acier, vers ceux, parfois malarméens, du rêve. Ainsi, un petit paradis de Pigalle invente-t-il un espace onirique et bachique, tout à la fois, la parole littéraire sauvant la marge géographique de sa dimension initialement chaotique pour la réordonner en terrain d'épanouissement.
Rangis, du même groupe, lui donne jusqu'à une faculté rédemptrice, retrempant le locuteur dans un rite cyclique et initiatique de renaissance à la vie. Alors, nous sommes ainsi subtilement passés de la lecture d'un monde perçu dans sa violence à une poétisation de cette violence, à son tour autorisée par une forme de violence poétique qui, en dernière analyse, résout les contradictions du doute morose par une démarche quasi sotériologique. Ces conclusions partielles ne répondent cependant guère à une interrogation qu'elles soulèvent dans le même moment. Quel devenir pour un mouvement qui, depuis 40 ans, affiche l'absence d'avenir et son refus radical comme programme en soi, autrement dit, quel futur pour le no future ? Alors, si Le Punk est une fin sans fin, une fin en soi, en quelque sorte, d'ailleurs, je pense au morceau des cadavres, La Fin, comment qualifier la temporalité dans laquelle il se déploie autrement que comme une instantanéité anxieuse se réitérant dans la négation de toute autre épaisseur ? Alors cette négation, qui implique une réfutation du temps lui-même, est d'abord celle d'un temps. Ce temps présent, vécu comme dépourvu de sens, un moment absurde, voire carnavalesque, on pense à l'hystérie connective de Métal Urbain, et la profanation punk est celle d'un univers vide de sens, auquel on renvoie l'image hyperbolique de sa vacuité grotesque et sinistre. Cri primal et cri terminal, la fulgurance du message est liée à un sentiment d'urgence, puisque si on crie non à demain, Star Shooter, c'est que demain c'est trop tard. Donc c'est quel bel avenir dont on parlait avec Philippe ce matin. Et qu'on n'en attend plus rien. Ça c'est Wunderbar. Donc le sentiment apocalyptique nourrit d'ailleurs toute une eschatologie orwellienne, présentant la révolte comme une dernière fête avant la catastrophe finale, et dès 77, l'année 84, irradie titres et paroles des morceaux, en France comme outre-Manche, symbolisant cette angoisse à la fois existentielle et bien ancrée dans l'histoire des mentalités. Le futur en friche, dénoncé par Star Shooter dans le morceau déjà cité, ou un peu plus tard la vie pour rien déplorée par Caméra Silence, renvoie tout autant au paradigme punk du mensonge naïf des utopies Peace and Love et des discours politiques lénifiants, qu'à la réalité tangible de l'inquiétant rafranchissement de la guerre froide. Ici encore semble s'opérer une dialectique dont le second terme est la lassitude mélancolique. Du doute anxieux aux certitudes amères, de la provocation à la résignation désolée, la seconde vague qui naît à l'extrême fin des années 70 et prend son plein essor dans la première moitié des années 80, semble attester un changement de morphologie du discours. Alors quitte à sacrifier à des lieux communs de psychologie facile, on peut tout aussi bien la lire comme une entrée dans l'âge mûr, la sortie de l'adolescence critique par la première acceptation du principe de réalité, pour reprendre le titre du célèbre album du groupe bordelais que vous voyez ici. Dès lors, la sortie de ce stade neurasthénique peut appeler de nouvelles formes discursives revivifiées. Le refrain « Futur pour tous », scandé par Reich Orgasme, ça je peux pas m'empêcher, dont le morceau éponyme résonne comme un slogan, celui d'une décision de sortir du gouffre et d'arracher cet avenir que cette génération se verrait refuser. Alors l'éloge de l'amitié, de la solidarité, qui devient un leitmotiv de la souris, comme une Turnsect, tu la vioque, tous ces groupes du début des années 80, n'exclut pas un discours plus militant. Se réclamant de l'utopie réaliste, alors contrairement aux utopies dénoncées du post-68, dénoncées par les punks de 77, qui ne se contente plus de railler un univers se fissurant ni d'en accélérer la décrépitude par la seule satisfaction sadique du geste, mais qui énonce un monde à bâtir sur les valeurs, par exemple, de l'autogestion et de l'émancipation. Je vous laisse lire le slogan qui est le titre du premier 45 et unique 45 de Kidnap enregistré de leur vivant aux premières époques, qui est moins un souhait qu'une promesse radieuse, volontaire et impérative. Alors ces pistes en ont suggéré d'autres, quant à la notion de réflexivité propre au punk, la récurrence de l'image du miroir, j'y reviendrai pas ici, qu'il renvoie un reflet confus ou au contraire terriblement cru. Cette étude métahistorique d'un mouvement qui n'a cessé de se penser et de se représenter lui-même mériterait d'ailleurs d'être creusée, et elle a pu d'ores et déjà suggérer plusieurs questionnements encore ouverts quant à l'être punk, par exemple, dans son rapport au principe d'identité. Mais ça, ce sont des chantiers ouverts et des pistes à creuser. qui ont commencé à l'être avec un échantillon géographique lié à l'origine des groupes concernés, qui a fourni un corpus sensiblement différent des précédents, puisque là, on était dans la scène rouennaise et plus largement normande lors de la journée qui a été évoquée ce matin, avec une situation de carrefour de cette ville aux 100 clochers et de son hinterland, leur donnant déjà en soi un statut hybride de maillon entre Londres et Paris, et par-delà en faisant un terrain propice à des identités polymorphes. Alors, celle-ci se montre d'abord sous une forme évanescente, celle d'une image sous cellophane, bye-bye turbin, comme tamisée et prisonnière d'une gangue paralysante. Pris entre deux feux, dogs, voire se perdant dans une oscillation chromatique, elles offrent un aspect de dilution, de glissement hors du réel, voire de dépersonnalisation, jusqu'à l'agonie. 1595, je suis ready haut, ou à l'aliénation psychiatrique. Alors, le thème de l'enfermement hospitalier, de la schizophrénie, de la lobotomie, de l'abandon entre les mains de chirurgiens déments a connu la fortune que l'on sait dans l'imaginaire punk, mais prend ici des reliefs particulièrement marqués et précoces. La réification du locuteur peut se doubler de celle de son partenaire sexuel. Ainsi, la Cathy des Lâches, sorte de pantin mécanique à la féminité montée sur ressort, jusqu'au genre qui se brouille, telle la Sheila de Nyx. Alors ici, on a la version semi-censurée et la version complètement censurée, d'autant plus convoitée par l'agent masculine qu'elle ne serait en fait qu'une espèce de travestie un petit peu ratée. Alors on touche là une autre figure mythique du punk, hein, celle d'une femme déféminisée ou déshumanisée par surféminisation, qu'il s'agisse de la prostituée, par exemple la Lola de Brunwash, ou les Spurts qui disent être amoureux d'une pute, la nymphomane lubrique et obscène, ou encore la poupée gonflable qu'on retrouve déjà dans Métal Urbain, plus graphiquement chez Tulavieux, qui est jusqu'à la Philomène de PKRK. Cependant, s'il est jugé romantique d'être amoureux d'une pute, pour reprendre les Spurts, nulle place en revanche pour les nobles sentiments impitoyablement raillés par les nouveaux riches, avec le titre bien connu « Enfin l'amour ». Quant à l'identité artistique, elle ne se construit pas seulement en réaction contre le mainstream, ainsi qu'on le voit tourner en dérision avec la Sheila déjà citée des yéyés. C'est la réussite même de ceux des groupes punk qui percent, par exemple Starshooter, qui se voit impitoyablement raillé, voire métaphoriquement assassiné par RAS. Alors ici c'est RAS, le groupe normand à ne pas confondre avec l'homonyme francilien. Starshooter, je rappelle, bon, le jeu de mots du titre, hein, c'est une marque de billard, mais là dont le morceau de RAS Tueur de Star, ça le prend au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire star au sens star, shoot au sens tiré dessus. Donc il joue sur le nom de Star Shooter pour descendre les Lyonnais qui paradent désormais dans Hockey Magazine et avec leurs propres armes, puisque Get Back est impitoyablement raillé dans le morceau concerné, qui attaque ces musiciens qui ne seraient devenus que quatre harlequins dans le vent. L'iconoclasme se voit donc mis au carré, servi par une ironie d'autant plus mordante. L'outrage par le persiflage se montre plus efficace encore dans son propos de déconstruction que l'agressivité sanguinaire de tels hymnes parisiens, à l'instar de Panique de Métal Urbain, avec son démon dévastateur. C'est au contraire, donc parmi ce corpus hein, de groupes normands et rouennais qui a constitué un petit échantillon d'analyse à l'hiver dernier, une force d'inertie qui s'affirme comme une arme à la fois offensive et défensive, offensive par son sourire sarcastique et impitoyable, défensive en tant qu'elle se constitue face au carcan normatif des usages sociaux et des règles de la vie moderne, en mode de résistance active. Donc être négatif, pour les Olivenstein, signifie certes prendre à rebours les codes du bon goût bourgeois et du bon sens, mais se proclamer fier de ne rien faire, pour le même groupe dans le morceau bien connu, en revanche, ne signifie pas qu'un simple éloge de l'oisiveté ou une crâne râlerie de collégien qui refuserait de faire ses devoirs, même si le locuteur des Lâches, dont le morceau tubique, se dit être futile, débile et avoir tout pour être le comique du lycée. On sent percer, derrière cette feinte nonchalance mettant à mal les lois du monde du travail et de la société de consommation, tout en montrant le jeu des acteurs institutionnels comme une pantomime cynique. Là, on pense encore au lâche avec le morceau « Fête populaire ». Alors tout ça, c'est des rééditions très intéressantes, hein, de disques soit qu'on ne trouve plus, soit de démos tout simplement, ou d'enregistrements qui n'avaient jamais été édités, qu'on doit notamment au label Mémoire Neuve, qui a fait un précieux travail de remastering et de sortie vinylique de ce type de groupe peu connu qui en l'occurrence pour la Normandie m'a été très précieux. Donc cette dérision du monde du travail et de la société de consommation, ces acteurs institutionnels qui sont montrés comme des espèces de pantins cyniques ont des accents qui ne sont pas sans rappeler Guy Debord. Ça, c'est une autre histoire qui mériterait elle aussi d'être un jour réétudiée en profondeur dans les rapports par exemple entre le punk et situationnisme, généalogie qu'on a déjà ô combien invoquée mais qui à mon avis mériterait d'être peut-être réévaluer lors d'une journée ultérieure. Alors, concluons. Les trois moments évoqués ici ne sont en effet que des jalons, rappelons-le, qui gagneraient à être creusés, approfondis, élargis, tout ce que vous voulez, réinterrogés, remis en question, qui sait, et leur méthode de même mérite d'être affinée, elle continue de se construire en même temps que leur objet. Cet aspect épistémologique de la démarche a été présenté lors du séminaire Underground, évoquant notamment la question des marqueurs de littérarité, celle d'une langue ou d'un langage punk au sens le plus sémiologique du terme, pour, une fois de plus, suggérer davantage d'interrogations que de réponses. En posant a posteriori la question de la règle des trois unités du théâtre classique, c'est bel et bien une ambivalence centrale à nos yeux, car moins contradictoire que féconde, qui se révèle. Davantage qu'un message transgressif qu'une approche scientifique viendrait profaner, l'un comme l'autre oscillant dans des espaces complexes, le punk ne transgresse des dogmes esthétiques que parce qu'il les connaît suffisamment pour maîtriser les outils de leur retournement subversif et à son tour développer ses structures propres. Donc la notion d'analyse structurelle, structurale et in fine structuraliste a pu être en ce sens mobilisée. Revenons sur une des conclusions exposées lors de cette dernière journée. Si langage punk il y a, et gageons qu'il se dessine progressivement dans la richesse de sa cohérence et de ses paradoxes, il ne peut être que polyphonique. Il est affaire de mots, certes, mais également de tout ce qui fait système et qui fait sens. Alors, j'ai évoqué le paratexte, l'épictexte, etc. De tout ce qu'on peut, en somme, désigner comme signe. Ici, plus humblement, le chercheur s'efface à nouveau de quelques pas pour saluer l'équipe, puisque son travail ne peut prétendre à une quelconque valeur, nous le disions tout à l'heure, qu'à condition qu'il s'interdise la facile tentation du soliloque et se présente pleinement comme un dialogue entre nous tous. Je vous remercie.
Merci beaucoup Flavien pour cette très belle communication qui reprend certaines de un certain nombre de réflexions que tu avais pu nous présenter. Alors je cherche les micros. Est-ce que ça se déclipse comme ça pour les faire Oui, excuse-moi.
Ça ne va pas être une question, ça va être une remarque. C'était très intéressant et je te remercie pour ça parce que ça complète beaucoup de choses par rapport à ce que je pense aussi sur le texte et sur des choses. Mais en même temps, la question c'est est-ce que... Est-ce que le discours punk emploie un vocabulaire spécifique ? Parce que si on revient, par exemple, ils veulent coucher avec Sheila, des histoires de filles, etc., on prend des textes d'ACDC, il y a des histoires de cul en permanence. Donc...
Oui, alors, non, la question, c'est... Enfin, la question, il y a beaucoup de questions. Et par rapport à ce que tu dis, y a-t-il, par exemple, une langue punk ?
Voilà.
Une langue, un langage, c'est déjà des choses différentes. Il y a un système de signes. Il y a, à mon avis, déjà une parole punk. Quand tu écoutes, par exemple, les textes de Métal Urbain, la panique, par exemple, il y a une langue punk. Ensuite, quand tu utilises l'épitexte, le péritexte, le paratexte, enfin, on va dire tout ce qui fait sens ensemble, là, on arrive à une articulation globale qui, à mon avis, donne un langage punk. Et même si ACDC, c'est plein d'histoires de cul...
Entre autres.
Oui, mais ACDC, c'est pas ça. Et là, tu vois, tu as, à mon avis, un système entre le son, même si là, évidemment, on ne le voit pas, l'image, la forme du logo, l'utilisation des couleurs, la signification politique des couleurs, l'aspect vestimentaire, quelque chose qui sort, si tu veux, de la sémiotique purement linguistique pour renvoyer effectivement à quelque chose qui fait sens plus globalement. Alors après, encore une fois, c'est ouvert, c'est des choses qui demandent à être creusées. Mais je pense que Métallu, c'est quand même quelque chose qui peut fournir une bonne, sinon un point de départ, du moins un exemple assez criant de ce langage punk. Et en quoi précisément est-ce que ça se départit d'AC/DC, alors que parfois t'as certains groupes, par exemple Bulldozer, musicalement on pourrait dire que ça emprunte beaucoup au hard rock 70s, etc. Oui, mais parce que tu as, quand je parlais de cette poésie urbaine du côté Asphalt Jungle, je veux dire, quand l'enclume des jours, on te décrit quand même un crépuscule qui est quand même le lieu poétique, romantique par excellence, comme vu à travers les grues au-dessus du trou des Halles, et le locuteur emmène sa copine voir le soleil se coucher à travers le trou des Halles. Là, à mon avis, on a le retournement d'un topos purement littéraire passé à une grille de lecture, de relecture subversive punk, pour aboutir non pas à une anti-poésie qui serait grosso modo « je vomis, je rote et vive la bière », mais pour créer une sorte d'anti-poésie paradoxale qui devient une contre-poésie et qui recrée une poésie. Et c'est là où ça peut être de façon beaucoup moins subversif les textes de Pigalle ou autres groupes à texte assumé, mais tu as quand même, selon moi, une construction dans la déconstruction qui amène à une reconstruction, alors soit voulue, soit pas voulue, mais dans tous les cas qui aboutit à quelque chose. Reste à voir encore quoi.
Alors, je me doutais bien que ta réponse allait aller dans ce sens-là, évidemment, mais ça revient aussi, je ne sais pas où est Olivier, mais il doit être par là dans le coin, à ce qu'on disait ce matin, je ne sais pas si tu étais dans la conversation, mais Olivier me disait, ou nous disait, on était, je ne sais pas combien, que pour lui, le punk, c'était une question de prosodie. Et que le texte, la prosodie, la langue punk, enfin, la manière d'écrire punk avec la manière de le chanter, va créer cette identité et pas forcément les sujets, parce que c'est toi qui as cité, je crois, Renaud décrivant la banlieue au début de ta communication. Là,
oui, puis tu as ici les Moulineaux, tu m'avais posé une question il y a effectivement un petit peu plus d'un an sur effectivement Renaud.
C'était exactement.
Un, c'était ouais, un ouais, clin d'œil à cet échange, cet échange d'ici les Moulineaux. Oui, bien sûr, la prosodie rentre entièrement. Je me souviens d'ailleurs de la communication d'Olivier sur sa manière d'étudier effectivement le rythme des mots de la phrase avec tout un système très intéressant de logiciels informatiques très pertinents, et c'est là aussi où ça devient transdisciplinaire, parce que par exemple là on n'a pas Philippe Lyotard parmi nous, mais le corps également est un langage punk. Là toi tu es musicologue, donc tu es le premier également à donner un langage, par exemple des pochettes, ta communication à Rouen sur la pochette des Dogs par rapport comme je sais pas comment dire transposition d'une pochette des Stones. Mais là, tout ça, on est dans une sémiologie polymorphe qui est complètement...
Oui, Marquis de Sade aussi par rapport à Egon Schiele, etc.
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et là, on rentre également dans autre chose qui est l'intertextualité.
Exactement.
C'est-à-dire, il y a un autre marqueur de littérarité, c'est par exemple lorsque Reich Orgasme, on peut penser que, ces deux termes un petit peu brutaux qui font peur, le premier... qui renverrait à une réalité historico-politique de la Seconde Guerre mondiale et d'un régime totalitaire, et la seconde à un principe de plaisir physique éjaculatoire, donc ça serait deux mots iconoclastes, dont en plus le principe, enfin, la dualité de principe crée une espèce d'horreur oxymorique, mais en même temps, on oublie que Wilhelm Reich est un sociologue, psychologue, enfin penseur, qui a entre autres théorisé le principe de plaisir, et que le jeu de mots initial vient en fait du nom de ce monsieur.
Et oui, moi je... Bonjour. Je voulais revenir justement sur le côté, l'approche structuraliste des textes, en fait, qui... tu disais, il y a aussi le corps, et pour moi il y a surtout le corps, en fait, dans le punk. Et justement, c'est des textes qui, je pense, au départ... Enfin, je sais pas, peut-être François peut nous en parler, François Berru, dans le sens où quand on écrit, enfin, quand tu écrivais ces textes, est-ce que c'était pour que les gens les lisent ou est-ce que c'était pour qu'ils soient dits? Et dans ce cas-là, est-ce que le registre du sens, donc de la signification, n'est pas plutôt à chercher du côté du son et donc du rythme du texte? Et donc là, je reprends des méchoniques qui s'est longtemps opposé au structuraliste, d'ailleurs, dans ce registre-là. Est-ce que la sémiotique et la sémiologie... Est-ce qu'elle est pertinente, justement, dans le cadre des études des textes et de la mise en voix? Parce que finalement, c'est l'organisation du sujet, est-ce que ça nous dit du personnage vocal qui est mis en scène, qui est peut-être plus intéressant que le sens des textes seul. Voilà.
Ah, c'est justement, précisément, parce qu'on a une équipe qui est riche en anthropologues, en sociologues, et qui a quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'on a des acteurs, des témoins, et comme on disait tout à l'heure, des plus ou moins survivants, vivants, revenants, etc. Donc la démarche biographique, sociologique, anthropologique, autobiographique, elle existe. Elle existe dans cette équipe. Donc ce n'est pas, entre guillemets, dénaturer l'objet punk en disant le texte punk se serait très bien passé des punks, parce que les punks, on s'en fout, c'était que quelques personnages anecdotiques qu'on ne va pas étudier ici, puisque on est nombreux ici à les étudier. C'est précisément parce qu'il y a ces acteurs, et notamment ces tables rondes, ces personnes qui se souviennent de ce qu'ils ont écrit dans des fanzines au début des années 80, de ce qu'ils ont chanté dans des micros à la fin des années 70, de ce qu'ils ont écrit dans Best ou Rock and Folk à la même époque, qu'on peut, à mon avis, se permettre justement de rentrer dans cet interstice qui n'est pas structuraliste au sens, je veux dire, où le structuralisme est une école dont tout le monde sait qu'elle est contestée depuis 40 ans, considérée comme dépassée, périmée, tout ce que tu veux. C'est pour ça que je préfère structural, structurel. Mais c'est tout simplement l'idée que...
Ça reste le structuralisme.
C'est l'idée qu'un langage peut aussi parler de lui-même. Ah, ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans la génération spontanée d'un système. Mais bon, en même temps, quand toi, tu étudies avec tes propres outils de travail, fier de ne rien faire des Olivenstein par rapport à la scansion de Panique de Métal Urbain, c'est bien deux exemples que tu...
Alors,
que
c'est
tu
pas prends. Panique, mais oui, c'est en tout cas le premier était le bon.
Clé de contact.
Voilà, exactement.
Bon, je suis pas sûr... que Claude Panique ou le chanteur des Olivenstein aient calculé... Enfin, s'ils ont peut-être voulu donner une intonation...
Ah oui, oui, c'est pas... Moi, je...
Mais,
oui,
ils avaient, mais à mon avis...
C'est pas volontaire.
Mais oui, ils n'avaient pas calculé l'algorithme qui allait apparaître sur ton écran.
Ah non, ça c'est sûr.
Eh ben moi, c'est un petit peu la même manière. Oui. Je vais pas te dire, ah oui, non, le texte, il échappe au locuteur. Je veux dire, quand François Hadji Lazaro, il te crée un bar-tabar rue des Martyrs, c'est bon, c'est pas structuraliste de te dire qu'il en existait pas. Hein. Il y passait assez souvent pour savoir qu'il y en avait ou pas. Mais là n'est pas la question.
Oui, justement, je pense vraiment que c'est l'approche, moi, qui m'intéresse. C'est vraiment, si on veut chercher de la signification dans ce qui a été écrit et dit, est-ce que ce n'est pas plutôt dans le registre du rythme donné au texte, dans sa mise en voix, que dans le texte en lui-même seul? Voilà, c'est vraiment ça.
C'est là où je te répondrai à la limite que nos deux approches sont tout à fait complémentaires.
Oui, voilà.
Et après, bon, plutôt que la structure qui a un côté qui peut avoir un côté froid à l'analyse structurelle, je dirais qu'il y a également, quitte à employer encore une fois des vieilles catégories des années 70 qui peuvent sembler complètement périmées et qui me rappellent quand j'étais un jeune étudiant acnique dont je parlais tout à l'heure, mais qui me rappellent l'époque où j'écoutais ça, je dirais qu'il y a aussi une approche phénoménologique dans la façon dont j'ai essayé d'envisager par exemple le rapport à l'espace, au temps, à la substance, etc. Ça me rappelle un petit peu quand j'ai des techniques d'analyse de texte que j'ai apprises en lisant les travaux de Bachelard. Tout ça, oui, j'admets que c'est un petit peu daté. Mais par contre, je pense que tout ça est complémentaire et que ça s'inscrit précisément dans quelque chose de transdisciplinaire, a fortiori y compris par rapport à tes travaux sur la locution, au sens le plus physique du terme. Je crois que François avait une question.
Merci.
Est-ce que t'as pas oublié le verlan?
Pardon ?
Est-ce que tu n'as pas oublié le verlan ?
Je l'ai pas vraiment oublié, non. Non. Enfin, là, j'en ai pas parlé, mais parce que j'ai pas eu le temps de donner d'échantillons de texte. Là, j'ai plus fait un bilan de quatre dernières communications. Mais effectivement, dans la parole punk, il y a une distorsion du mot qui n'est pas que celle du verlan. Il y a également une distorsion de l'orthographe. Il y a en amont, dans ce qu'on pourrait appeler l'épitexte, la distorsion même. Là, c'est avec ce type de d'accolement sans phénomène de liaison, on a une distorsion de la syntaxe, on a une distorsion de l'orthographe avec par exemple l'usage du K pour remplacer des QE, avec, bon, j'ai parlé du morceau Panique, mais il y a aussi un groupe qui s'appelle Panique LTDC, et il y a des dizaines de groupes en fait punk qui se sont appelés Panique au même moment. Donc oui, ça c'est après, lors de communication, lorsque je prends un petit peu plus le temps de citer le texte en soi, effectivement, on rentre dans toute la... non seulement l'usage du verlan, bon, que le punk n'a pas inventé, mais également de toute une série de néologismes qui font la richesse de textes comme ceux, par exemple, effectivement, écrits par Géant Vert, pas uniquement pour Parabellum, mais également pour, par exemple, le premier album d'Era, La Tequila, dont il a rédigé une partie des textes.
Je vous conseille le Quepon et le Nuski de RS, tout en verlan.
Fab de la Fontaine, qui est pas mal. Je connais très bien ce morceau, mais je pense que quelqu'un ici le connaît encore mieux que moi.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi je suis assez d'accord sur les thématiques qui sont trans genre musical. On peut retrouver, par exemple, la thématique de Géronimo dans un groupe comme Imago, qui était un groupe de folk français et que les Berrues ont pu reprendre à un moment donné. Si je fais ce clin d'œil, c'est d'ailleurs peut-être parce que Imago avait fait ce truc-là que je m'en suis inspiré aussi. Ce que je pense, c'est une question de corpus. C'est-à-dire que là, tu t'adresses à un corpus choisi, limité, qui peut présenter un biais, parce que tu élabores, tu interprètes, tu donnes une interprétation précise et élaborée, plus d'ailleurs dans ton langage même à toi que dans la source même du texte, qu'on a assez peu vu. Je pense qu'un extrait n'est pas suffisant. Peut-être faut prendre un couplet entier ou alors le texte dans sa totalité. Mmh. Mais ça, c'est une critique. Mais je pense que c'est aussi, je suis d'accord avec toi, que c'est une porte d'entrée très efficace pour analyser, peut-être avec un corpus plus large, plus complet, avec montrer comment sont les interactions. Est-ce que OTH écrit la même chose que quelqu'un à Paris? Mmh. Et est-ce qu'à Rouen, ça se passe pareil qu'à Strasbourg, etc. Donc c'est des portes d'entrée intéressantes que tu ouvres, mais à mon avis, il faut approfondir. Par contre, je suis assez d'accord avec toi sur l'approche un peu phénoménologique. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de cela aussi dans le punk, à travers le corps, avec la perception du son, de l'image, de la construction, d'une identité graphique, etc. Mmh. C'est vraiment des choses à construire. Du coup, ça me rappelle cette idée que le punk est un objet total, avec aussi bien la trajectoire de l'individu qui parle et qui parle aux autres que celui qui analyse.
Oui, alors ça pourrait répondre très rapidement, parce que je pense qu'on va ensuite passer à la communication suivante. En deux mots, pour la question du corpus, effectivement, je suis parti d'abord d'un corpus que je connais, parce qu'il y a quand même, je pense, dans la démarche scientifique, malgré le recul critique, une démarche sympathique. Donc c'est vrai que pour moi, le punk français, autour d'une quarantaine ou une centaine de groupes, de 77 à 87, ça représente quelque chose qui est relativement connu de moi. Mais ensuite, grâce à la base de données dont a parlé Pierre, je pense que des approches à la fois des approches quantitatives, etc., pourront effectivement aider d'enrichir. Mais il faut commencer toujours par une petite lucarne pour ensuite élargir. Et c'est pour ça effectivement que j'ai présenté mon travail comme un work in progress. Alors je ne sais pas s'il progresse, mais en tout cas je sais qu'il avance. Et il se soldera forcément par un élargissement non seulement du corpus, mais des conclusions et évidemment et éventuellement des remises en question qu'il peut susciter.
Merci beaucoup, Flavien.